fait, je fais un peu comme ça, des salades un peu... Donc je fais ça, je fais de la sucrine. Et puis après, je fais du mesclin avec une vingtaine de variétés. Là, en ce moment, je n'ai plus parce qu'il est... Il est trop petit, où je mélange énormément de chicorée, de variétés asiatiques, etc. Ce qui fait que j'ai un mesclin qui est très typé, quoi.
On est chez vous, on commence peut-être par une présentation de votre activité et tout ça, ouais. Et après on passera la parole à Monsieur Bertrand.
Donc moi je me suis installé en 91 sur une partie de la ferme qui appartient en propriété à mes ancêtres, qui n'était pas une ferme au départ, puisque c'était une maison de bourgeois de Marseille pour se mettre à l'abri des famines de la guerre de 14. Et donc mon arrière-grand-père, il a acheté une petite propriété ici avec 1,5 hectare de terrain autour. Mon père s'est installé en 55 sur cette petite surface-là. Et moi, je suis venu travailler en 91. À ce moment-là, j'ai commencé à faire de la vente au détail alors qu'on allait juste au marché de la plaine ou des Arnavaux à ce moment-là. Au fur et à mesure des années et de la demande croissante, on cultive aujourd'hui 5 hectares de maraîchage. J'ai 120 familles en AMAP qui sont abonnées d'un panier de légumes par semaine. Je fais une vente au marché paysan du Courjulien à Marseille le mercredi et une vente libre ici le vendredi. Les AMAP m'ont permis de me recentrer sur mon métier et m'ont permis de pouvoir reprendre en main ma vraie activité. J'ai commencé moi en octobre 2001. C'est vrai que préalablement à ça, je faisais 5 marchés par semaine. Donc ça veut dire 5h du matin, 14h, avec une espèce de mauvaise spirale où l'après-midi on n'est plus bon à rien et que donc on arrive moins à travailler et à cultiver et que du coup on a moins de légumes et donc on fait un marché supplémentaire et puis on a une course à la trésorerie qui était un peu décevante. Il y a une grosse dynamique, il y a toujours de la place pour d'autres personnes qui veulent s'installer. On a une étude de la Chambre d'agriculture qui disait qu'il y avait 800 hectares de cultivés et 600 de plus de cultivables. Moi, je me bats pour que ces 600 de plus, qui sont malheureusement du privé, de temps en temps, passent pour des installations réelles. On est sur un bassin de population de 1 million de personnes. C'est pas normal, avec des terres qui sont en friche, c'est pas normal qu'on puisse pas faire l'adéquation entre les deux systèmes. Moi, je pense que sur Aubagne, il y a eu des étincelles qui sont nées. On est arrivé à faire des choses. Et je suis sûr qu'il y a d'autres territoires où il y a la même étincelle qui s'est passée, ou en tout cas qui pourrait arriver, etc. Et que je pense qu'il faut arriver à écouter suffisamment de façon locale ce qui se passe. Et que s'il y a des dynamiques, des choses qui se passent avec l'installation, avec la sauvegarde de terre, avec des tas de choses comme ça, il faut bien prendre en compte les dynamiques locales qui sont déjà sur le territoire.
Les 400 hectares qui ne sont pas cultivés, que j'avais évoqué, ils sont sous une pression immobilière importante et comment ça se passe?
Il y a une partie de ces 600 hectares qui sont dans le zonage agricole. Je pense que c'est bloqué pour peut-être une trentaine d'années ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas pour ça que ce foncier-là redevient à disposition, soit à la vente, soit à la location. Parce que les propriétaires se disent, si c'est pas moi, ça sera mes petits-enfants et autant le garder, quoi.
Ils ne veulent ni louer ni vendre, les propriétaires, ils attendent qu'une chose, c'est que ça soit...
C'est le cas de ma ferme. C'est le cas
de
ma ferme.
Ils l'auront pas, heureusement, hein, mais ils attendent.
Sur 1,5 hectare ici, autour du bâtiment, je suis en location sur l'indivision de mes frères et sœurs. Mais les 4 autres hectares que je cultive soient mis à disposition... Donc, virable du jour au lendemain, soit un bail précaire de 3 ans, non signé. J'ai mon activité qui tient sur rien, quoi. Je fais partie du collectif de défense des terres fertiles du Bouches-du-Rhône, justement pour faire attention à l'artificialisation des terres. Mais après, ça ne fait pas tout. Et même si on manifeste et qu'on veut défendre l'outil de travail et la capacité qu'on a de nourrir les gens locaux, les paysans tout seuls, ça ne suffira pas, quoi.
Le scot était longtemps, on a mis longtemps à élaborer, hein, nous 4 ans à élaborer ce scot, et on s'aperçoit que ici, les limites du politique et même de l'aménagement du territoire, notamment sur les terres agricoles, sont confrontées au prix du foncier. On a ce qu'on appelait sanctuariser les terres agricoles, même au-delà, puisque avec la Chambre d'agriculture, on a décelé des territoires avec des potentiels agricoles. Aujourd'hui, pratiquement toutes les communes de l'agglo du Pays d'Aubagne sont passées en PLU, ont sanctuarisé cette terre. Et on a un mal fou, même en allant auprès des propriétaires, en aidant les agriculteurs, à débloquer ces terrains. Parce que effectivement, il y a ce fantasme, parce que on est exemplaire aujourd'hui, mais on l'a pas été entre les années 70 et les années 90. Hein.
Même pas 90, je dirais 2005.
Oui, donc jusqu'à il y a pas longtemps.
Il y a pas très longtemps.
Et on retrouve pas ça sur le territoire métropolitain, notamment au nord du Pays d'Aix, par exemple. Là, il y a une tradition agricole qui a été maintenue. Il faut pas uniquement sanctuariser les terres agricoles, il faut faire des ZAP, il faut avoir des projets. Oui. Par exemple, une ZAP, c'est rien, mais juste c'est un document signé par le préfet et pas uniquement par le maire, et donc ça a un impact plus important.
Alors je reviens au début de l'histoire. En 91, l'agriculture aubagnaise est vraiment tournée vers le marché marseillais, mais plutôt vers le marché de gros, vers les Arnavaux. Mais quand même, globalement, ils se débrouillent plutôt mieux que les autres, dans le département, je dis. Hein. Et il se passe que Auchan achète des exploitations pour s'agrandir en zone agricole, va vraiment acheter, et puis il y a une affaire qui sort dans le journal avec un maraîcher qui dit, ben voilà, on m'a donné 2 millions de francs, et donc j'ai licencié tout le personnel, je suis bien content et je m'en vais. Et là, le maire d'Aubagne dit, c'est pas possible, en même temps, il faut qu'il agrandisse sa zone de Napoléon, donc zone de Napoléon qui est une zone d'activité, et c'est vraiment le cœur de la plaine maraîchère, et donc il va lancer une étude sur l'agriculture à Aubagne, donc en 91, et puis 92-93, on va faire toutes les communes de la communauté d'agglo à l'époque, Roquevert, Auriol, Cuges, les communes qui le veulent peuvent faire de l'acquisition foncière, et on achète des terres pour installer les agriculteurs, et on les rétrocède à 0%. Et pourquoi Jérôme n'en profite pas à l'époque? Parce qu'en fait, c'est les communes qui prennent en charge et pas l'agglo, donc Aubagne prend en charge, mais Roquevert et Auriol, ils n'ont pas les moyens. Du coup, il y a des opérations qui se font sur Aubagne, une ou deux sur Auriol, mais il y en a pas tant que ça. Par contre, c'est vertueux parce que l'agriculteur s'installe, on lui achète son terrain et il s'installe avec un prêt à taux zéro et sans cautionnement, simplement avec un simple acte notarié. Et puis, il bénéficie du conseil technique du CETA, donc le CETA, Centre d'études techniques agricoles, qui est créé finalement par la collectivité et financé par la collectivité. Et il y a un réseau d'irrigation sous pression qui est mis en œuvre donc sur Aubagne. Et le maire garantit le prix de l'eau pendant 10 ans. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, la SEM a récupéré la concession et le prix de l'eau a augmenté de 80% l'an dernier. Et donc on se bat, nous, avec le président de l'agglo d'Aubagne, auprès de la SEM, pour revenir à des prix normaux, parce qu'il y a de bon nombre de maraîchers qui voient leur facture d'eau doubler, quoi. Avec le recul, cette politique agricole, là maintenant qui a 25 ans, ce qu'on voit, c'est que elle a eu une influence très positive sur les maraîchers, les gens qui pouvaient s'installer, tout ça. Donc le tissu agricole existant. Par contre, on n'a pas endigué la perte de foncier agricole, notamment sur... on n'a pas réussi à maintenir le foncier agricole et on est passé grosso modo de 1500 hectares à 800 hectares aujourd'hui. Donc ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Pendant qu'on a renforcé, par contre, la viabilité des vraies exploitations, la politique foncière a des effets. Et malheureusement, on n'arrivera pas, on est trop près de Marseille. Et voilà. Ça n'empêche pas de continuer de produire. Mais comme tu dis, il y a plein de friches et on ne sait pas trop comment prendre ça. Pourquoi pas, effectivement, aller vers des zones agricoles protégées? On verra la suite, quoi.
Après, c'est sûr que 10 euros le mètre carré pour faire du maraîchage, c'est vraiment étonnant. Ce qui a changé dans l'image, dans le schéma de l'agriculture par rapport aux citoyens, c'est que les citoyens ont compris l'importance qu'ils avaient dans les choix des décisions de ce qui s'est passé. De se nourrir localement, c'est important, et c'est important pour la qualité de la nourriture, mais c'est aussi important pour le cadre de vie, pour etc. Le poids des citoyens avec les paysans commence à faire un peu quelque chose.